Bonsoir chers auditeurs, et nous nous retrouvons comme régulièrement, maintenant c'est tous les mois, avec mon ami Jean Larmande autour de ses micros de Radio Courtoisie, et Jean Larmande qui est le président du Cercle Algérianiste de Neuilly et d'Île-de-France, et qui connaît très très bien l'affaire d'Algérie, puisque lui-même était en Algérie, étudiant en Algérie en 1962. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que je l'ai connu, quand moi-même j'ai connu quelques événements, j'ai subi quelques événements à cette occasion-là. Et donc avec Jean Larmande, nous avons décidé de faire un peu un récapitulatif de cette affaire d'Algérie, puisqu'on semble penser qu'il n'y avait aucun moyen de faire autrement que de liquider l'Algérie française, que c'était la solution la plus radicale, la plus politique, la plus économique aussi, paraît-il. Moi, je n'en crois rien. Je suis resté sur mes vieilles perspectives. Et donc, nous avons, au cours de ces dernières émissions, rappelé toute l'histoire de l'Algérie depuis la plus haute antiquité. Nous en étions restés, et je vais laisser la parole à Jean, nous en étions restés à la fin du Second Empire. Alors, Jean, adresse-toi à nos amis lecteurs, et évidemment, vous pouvez participer en donnant vous-même votre avis, parce que ce que nous disons a été contesté, mais moi, je continue à penser qu'il est très, très dommage que nous n'ayons pas réussi à créer quelque chose de sui generis. Évidemment, il fallait sortir des cadres républicains stricts. Il ne fallait pas être jacobin, il ne fallait pas être stupide, mais ça, c'est très difficile pour la République. Et même quand les républicains sont intelligents, ils deviennent absurdes en politique à cause des principes qui les guident. Et donc, on n'a pas réussi à trouver une solution qui eût été infiniment préférable de trouver et qui aujourd'hui aurait toute sa vertu sociale, politique, j'allais dire même religieuse.
Oui.
Tandis que, bon, on n'a pas fait... Maintenant, nous sommes dépendants de l'Algérie, c'est nous qui sommes sous le joug.
Bon. Oui. Et ça
n'est
pas fini.
À toi la parole.
Voilà. Alors, chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, je vous souhaite la bienvenue dans cette cinquième émission de Réaction, que nous avons consacré à l'histoire de l'Algérie en la suivant depuis le début. Dans la première émission, je crois que c'était le 24 janvier, nous avions étudié le lointain passé de cette région géographique que j'appelle, moi, le nord de l'Afrique. Parce que je préfère ce nom à l'Afrique du Nord, parce que le nord de l'Afrique, c'est purement géographique. Il n'y a pas de contenu politique, humain, etc. à l'intérieur. Alors, cette première période a couvert les époques grecques, numides, carthaginoises, romaines et byzantines, jusqu'à l'invasion arabe du 7e siècle. La seconde, c'était un mois plus tard, c'était le 24 mars, nous avait permis de traiter de l'arrivée des Turcs en Algérie, appelés au secours par les pirates musulmans qui étaient menacés par les Espagnols qui, après la fin de la Reconquista, s'était dit « nous allons réoccuper les territoires chrétiens de l'Afrique du Nord, etc. » Et d'ailleurs, les Espagnols l'ont fait très largement, puisqu'ils ont encore des présides, etc. Et il faut aussi se souvenir que les Oran fut espagnol pendant beaucoup plus longtemps qu'elle ne fut française, puisqu'elle était espagnole, en gros, de l'époque de Charles Quint jusqu'à Napoléon Ier. Alors, on a traité de cette arrivée des Turcs, etc., puis de l'expédition d'Alger de 1830, avec la prise de la ville, le départ des Turcs, et le début de l'implantation de la France dans ce territoire qui s'appelait à l'époque la Régence d'Alger. Le mot Algérie n'existait pas, et on va voir comment... Et c'est dans la troisième émission, le 21 avril, que nous avons étudié l'évolution de la présence française sous le règne de Louis-Philippe et l'acte de naissance de l'Algérie, puisque en 1834, le gouvernement français a défini les possessions françaises dans le nord de l'Afrique, anciennement dénommées Régence d'Alger. et 5 ans plus tard, c'est-à-dire en 1839, a complété par désigné à l'avenir sous le nom d'Algérie.
C'est à partir de ce moment-là
donc que le nom d'Algérie est né à ce moment-là. Et sur le plan géographique, il n'y avait pas énormément de différence entre l'Algérie, le Maroc et la Tunisie. C'était la Libye, mais ça je connais beaucoup moins. Mais enfin, c'était les mêmes populations un peu partout. Ensuite, donc on a traité cette époque-là. Puis la période qui a été définie par le gouvernement français comme l'occupation restreinte et l'expansion progressive de cette de cette occupation restreinte jusqu'à la reddition d'Abdelkader en 1847 et au contrôle de tout le territoire après la prise de la Kabylie dans les années 53-57. Alors la quatrième émission, c'était il y a un mois, le 19 mai, nous avait fait revivre les premières étapes de l'intégration de l'Algérie à la France. Donc la constitution de la Deuxième République en 1849 reconnaît l'Algérie comme un territoire français. Et elle est alors divisée en 3 départements, celui d'Alger, celui d'Oran et de Constantine, mais mis sous l'autorité d'un gouverneur général. Et pendant le Second Empire, cette organisation se poursuit avec 2 mouvements. Le premier, ça a été la création d'un ministère de l'Algérie, confié à un neveu de Napoléon III, qui aurait été sans doute une très bonne idée, mais qui n'a pas duré assez longtemps, il n'a pas été jusqu'au bout. Puis, l'idée du royaume arabe de Napoléon III.
Dont tu as très bien montré qu'il y avait une appellation qui était abusive, puisqu'il y avait une grande partie de la population qui était berbère.
Berbère, c'est ça, exactement.
Kabyle en particulier,
Et berbère. Et alors, donc, la France... Enfin, les gouvernements français, l'administration française ne parle que d'arabe.
Oui.
Tout simplement parce que, au moment du débarquement de 1830, l'Algérie, il y avait les Turcs qui étaient fort peu nombreux et les Arabes dans la plaine.
C'est ça.
Et les Berbères étaient dans la montagne. Mais les Français ne sont pas allés juste là, ils sont restés.
Non, mais ça prouve une fois de plus, comme en toute politique extérieure, que Napoléon III, qui par ailleurs était sans doute un brave homme, n'avait pas de connaissances en réalité concrètes. Oui. Il n'étudiait pas ses dossiers. Mmh. Et c'est pour ça qu'il s'est trompé sur à peu près tous les sujets de politique étrangère. Mmh. Et il s'est trompé dans cette affaire avec ce royaume arabe qui a d'ailleurs mis à mal nos relations, y compris avec les populations arabes d'ailleurs.
Oui, tout à fait. Alors, et en plus de ça, au moment de Napoléon III, il y a eu le début de la rivalité pour les Européens entre les tenants d'un régime militaire matérialisé par les bureaux arabes, donc se tournant vers les populations indigènes, etc., et d'un autre côté, ceux partisans d'un régime civil permettant d'avoir beaucoup plus de liberté pour développer la colonisation.
C'est ça.
Et les deux, et ce problème-là, il a fallu une vingtaine d'années pour essayer de le résoudre.
Et d'ailleurs, ça s'est poursuivi.
Ah oui, tout à fait. C'est poursuivi, mais aujourd'hui, surtout, ça a été amplifié a posteriori pour expliquer que c'était impossible, etc. Alors, ce que nous allons traiter aujourd'hui, c'est, je dirais, le tournant des années 70, 1870.
Oui.
Les années 70.
La défaite.
Alors, on va traiter d'abord la défaite de 70 et ses effets
eu des conséquences
sur l'administration de l'Algérie.
Pas seulement que sur l'administration de l'Algérie.
Oui, tout à fait.
Cette défaite de 1870 a eu des conséquences très graves, à tout point de vue.
Oui.
C'est comme ça que les Républicains se sont emparés du pouvoir en France.
Oui, tout à fait.
Avec leur idéologie maçonnique, essentiellement.
Et aussi parce qu'on a déclenché une guerre sans aucun intérêt.
C'est ça. On s'est fait manipuler par Bismarck, la fameuse dépêche d'Ems.
Oui. Alors, en 70, donc, la population européenne d'Algérie avait accueilli sans aucun enthousiasme l'annonce du conflit avec la Prusse.
Oui.
La Prusse était très loin, etc., etc. Mais très rapidement, les effets de la guerre se firent sentir en Algérie. Il y a eu d'abord les régiments de l'armée d'Afrique étaient partis très rapidement en France, avaient été engagés. et avait subi de lourdes pertes dans les batailles de Wissembourg, Forchwiller,
oui.
Forbach, etc., etc. Et ensuite, les survivants avaient été faits prisonniers à Sedan.
Bien sûr.
Et ensuite, une autre chose dont on ne parle pas, c'est qu'il y avait eu ensuite la libération d'un certain nombre d'officiers à condition qu'ils s'engagent à ne pas poursuivre dans la guerre.
Oui,
Ils étaient
reprendre leur
rentrés en
épée.
Algérie et ils étaient méprisés par tout le monde parce que c'était
Oui,
des vaincus,
bien sûr.
etc. Alors, voilà donc cette situation. Et alors, la proclamation de la République à Paris déclenche l'agitation des Européens d'Algérie, on parlera des indigènes après, mais déclenche l'agitation des Européens qui voient l'occasion de mettre fin au régime militaire, puisque
Oui.
l'armée a été battue, etc., etc. Et tandis que les chefs musulmans, eux, s'inquiètent de la chute de Napoléon III, pour qui ils ont un préjugé favorable. Et effectivement, Napoléon III étant l'empereur, les chefs musulmans qui étaient, en gros, des nobles, on
Oui,
peut dire, les chefs
ils
de
étaient
tribu,
fidèles à la
à la
légitimité apparente, au
légitimité,
moins, voilà, bien sûr,
tout à fait,
c'était, et ça, c'est ce qui va manquer
et
d'ailleurs
à
à
la
l'Algérie,
relation
bien sûr. Bien sûr.
Des nobles avec le suzerain.
Bien sûr,
Et
exactement.
Napoléon III,
Oui, bien sûr.
c'était ça.
C'est
Alors,
ce qui a manqué terriblement à l'Algérie
tout à
par la
fait.
suite, et d'ailleurs d'une manière générale à nos colonies, oui.
Oui, tout à fait. Voilà donc la situation. Donc les Européens s'agitent. Et à Tours, le gouvernement de la Défense
Oui.
nationale, qui est animé par Gambetta,
Oui.
confie les affaires algériennes au ministre de la Justice, qui s'appelle Adolphe Crémieux, et qui est un des no notables de la franc-maçonnerie. Donc ça, il faut bien le... Bon, ça, parce qu'on va avoir là l'arrivée de la franc-maçonnerie. Et il est très favorable à l'assimilation que prônent les délégations de colons. Et les colons, comme je disais tout à l'heure, eux, l'objectif, c'est les terres. Mais les terres étant, comme il y a des populations indigènes, arabes et berbères, il fallait gérer
Oui.
avec intelligence cet ensemble-là. Et
Tu
on
nous avais
peut...
expliqué les fois dernières, tu nous avais expliqué
Les
le
béliques,
régime des terres.
le régime des terres,
Inter,
etc.
oui.
Mais d'un autre côté, les
Il
terres...
n'y a pas eu de spoliation. Alors
Non,
justement, là, ils rêvaient de pouvoir
de
étendre
pouvoir
leur domaine. Oui.
et les récupérer. Alors, donc, loin tour, à Alger se crée un comité républicain, à ce moment-là, qui est animé par Romuald Villermoz, qui est un avocat, lui aussi franc-maçon, qui avait pris parti, une part active, dans le mouvement révolutionnaire de 1848 dans le Jura,
Ah oui,
et qui avait été, de ce
exilé.
fait, déporté en Algérie, où il était resté.
Oui.
Donc il était là, etc. Il se dit chic, hop, etc. Et il devient maire d'Alger, puisqu'il y a des élections tout de suite après, en octobre 70, et il est élu maire d'Alger à ces élections, puisque ne voter les Européens, et là lui dit, allez hop, c'est l'intégration, enfin l'intégration, c'est la fusion, etc., etc. Donc les Européens votent en masse pour lui. Et à ce moment-là, le conseil municipal et le comité républicain qui avait été créé s'unissent et ça crée la commune d'Alger. Et il y a aussi des comités républicains qui se créent un peu partout dans le reste de l'Algérie. Et le principal désir de tous ces comités, c'est de mettre fin au régime militaire qui, disons, défend les terres des musulmans
Oui,
en Algérie en disant ils sont là, etc., etc. On est là,
oui.
on n'est
Ils
pas là
veulent
pour
garder les
spolier tout le monde.
statuts anciens de la
Exactement.
terre.
Et, mais beaucoup d'Européens, ça d'autant plus qu'il y en a là-dedans pas mal qui veulent récupérer des terres puis les revendre après, comme ça
Oui,
s'était déjà
bien
passé
sûr.
avant. Alors,
La spéculation n'est jamais très loin dans une affaire pareille.
voilà. Alors, à Alger, Mac Mahon, donc, était le gouverneur général de l'Algérie au début 70. Il a été
Oui.
rappelé en France pour prendre la tête de l'armée, enfin,
Oui.
etc. Et c'est Durieux, le général Durieux, qui a assuré l'intérim. Alors, le gouvernement de Tours, comme toujours, se dit, ce Durieux a été nommé par Napoléon III, etc., donc il faut le changer. Et il nomme le général commandant de la division d'Oran, mais qui est très impopulaire en Algérie, en particulier parce qu'il a été à la tête des bureaux arabes, etc.
Oui.
Donc les Européens se disent, ah non, on nous colle un gouverneur général qui est encore un militaire, et qui était, etc., on n'en veut pas. Et donc il y a une émeute, la commune d'Alger, et du coup la commune d'Alger déclare Villermoz, dont on a parlé tout à l'heure, commissaire civil par intérim. Et c'est approuvé par les comités de défense qui sont créés en Algérie, sauf ceux de Beaune et de Constantine, je ne sais pas pourquoi. Donc voilà la situation. Donc c'est en fait la pagaille.
Oui, bien sûr, comme
Bon,
toujours,
comme toujours. Et alors le gouvernement de Tours n'envoie pas de
dès qu'on institue une
directive.
république quelque part, ça commence par
Voilà.
la pagaille et ensuite la tyrannie.
Voilà. Donc l'anarchie commence à gagner le pays et les indigènes, en particulier les chefs de tribus indigènes, se disent. Y a plus d'autorité, donc on va nous reprendre
Bien
l'autorité
sûr,
et
bien
on veut
sûr.
créer dans les djemaas, c'est-à-dire les assemblées qui gouvernent les tribus ou les ensembles de tribus. Et finalement, le gouvernement de Tours nomme le préfet d'Oran, qui s'appelle Charles Dubouzet, qui est un ancien professeur au lycée d'Alger, comme commissaire extraordinaire provisoire, avec la tâche d'appliquer les nouvelles dispositions que Crémieux prend entre la fin octobre et décembre 70 sur l'administration de l'Algérie. Et alors, ce n'est pas deux ou trois choses, il y a eu 58 décrets, etc., etc., et avec une pression constante des délégations venant d'Algérie. Alors, disons, que fait Crémieux? Alors, d'abord, Alors, pardon, j'ai oublié de vous dire que Charles Dubouzet a été nommé donc commissaire extraordinaire parce qu'il y avait eu deux essais précédents avec des révoltes
Oui.
et donc par les Algérois qui. Alors, donc, les premiers décrets de Crémieux concernent la réorganisation du gouvernement de l'Algérie. Et alors là, on va assister quand on analyse bien ces décrets. Ah, on dit tout et son contraire.
Il y a combien de décrets?
En total, il y en aura 58.
Oui, c'est
Mais
ça.
bon.
Oui.
Un décret donc, du 24 octobre 1970, il y en a 3 ou 4, dans son article 1, annonce une assimilation totale de l'Algérie à la France. Suppression du gouvernement général. Trois départements, alors là il y a quelque chose d'intéressant, il est dit dans le décret, ce qui établit 92 départements dans la République française. Alors j'ai vérifié un peu les calculs, ces 92 départements, c'était les départements français, il y en avait 89,
Oui,
puisqu'il y avait
89. Oui.
89, parce qu'on n'avait pas encore
Oui.
perdu les trois ou quatre départements d'Alsace et de
Oui.
Lorraine, mais on n'avait pas non plus créé le 90e,
Oui.
qui était le territoire de Belfort.
Oui.
Donc, c'était les 89 plus les 3 d'Algérie. 92 départements dans la République française. Ces départements élisent des députés. Et, là aussi, c'est ce qu'on appelait ensuite les rattachements. Ils dépendent pour chaque service du ministère compétent dans la métropole. Donc, vraiment, j'unifie tout.
Oui.
Les lois françaises s'appliquent à l'Algérie sans besoin de promulgation spécifique. Mais les articles suivants, c'est là où disent le contraire, rétablissent alors les régimes spéciaux. On maintient les territoires militaires et donc les bureaux arabes
Oui.
sous l'autorité d'un général
Oui.
commandant les forces de terre et de mer. Donc vous voyez, on dit c'est la même chose que la France, ça dépend des ministères, mais les bureaux arabes restent. Ensuite.
Mais c'est typique de ce qu'il y aura comme politique en Algérie de façon constante, c'est-à-dire
Tout est son contraire.
tout et son contraire. Et ce sera la même chose même avec De Gaulle.
Oui,
Voilà,
tout à fait.
tout et son contraire. Et finalement, c'est le contraire qui s'impose au final,
Mais
bien
là, par
sûr, comme
exemple,
toujours.
on a supprimé le gouvernement général, mais on crée un gouverneur général civil des trois départements d'Algérie, mais avec des pouvoirs limités aux affaires de colonisation. Et on dit, c'est la République française, c'est le Parlement français, mais on crée deux conseils, un comité consultatif de 10 membres, dont 6 élus au suffrage direct, et un conseil supérieur de 15 membres, dont 9 conseillers généraux, élus aussi. Et dans ces deux conseils ont pour attribution de délibérer sur le budget de l'Algérie. Donc là, on voit, on fusionne tout.
Une sorte
tout.
De pouvoir législatif, oui.
Oui, pas le pouvoir législatif, mais sur les budgets. Mais alors, on dit, ça dépend des ministères français, mais pour à peu près tout, c'est tout, ça dépend de l'Algérie. Bon, les Européens manifestent leur mécontentement surtout au maintien des bureaux arabes, puisque c'était leur revendication. Et à ce moment-là, Crémieux confie à Viguier, qui était un conseiller général de Constantine, la mission de préparer de nouveaux textes. Et là, superbe beauté, il y a des décrets du 24 décembre 70 qui déclarent antinationale la politique des bureaux arabes. Donc on dit... ces décrets prévoient aussi de réduire considérablement le territoire militaire, mais ça s'avérera inapplicable et on va créer des communes mixtes.
Oui. Donc, voilà. Ne serait-ce que pour des raisons de sécurité,
bien
j'imagine.
Sûr. Oui. Bien sûr. Donc voilà
le tableau.
Voilà le tableau, c'est-à-dire on ne sait plus où on en est. Et la deuxième chose, c'est là le fameux décret Crémieux, c'est grâce à ça que Crémieux est passé à la postérité, c'est la naturalisation collective des Juifs. Alors, comme je l'avais indiqué dans l'émission du 19 mai,
C'est de quelle date, ça, exactement?
Alors le Senatus Consulte de... je reviens un peu en arrière. Oui. Il y a eu, le 14 juillet 65, ou 13
sous
juillet,
Napoléon III.
Sous Napoléon III, deux Senatus Consulte qui disent l'indigène juif ou français, ou juif ou musulman, l'un parle des juifs, l'autre des musulmans, l'indigène musulman ou juif est français. Néanmoins, il continuera à être régi par la loi, alors musulmane ou mosaïque. Il peut être admis à servir dans les armées de terre et de mer. Il peut être appelé à des fonctions et emplois civils en Algérie. Et il peut, sur sa demande, être admis à jouir des droits de citoyen français. Dans ce cas, il est régi par les lois civiles et politiques de la France. Et donc c'était le gros problème de ces Senatus Consultes. C'était très bien, on ouvre, mais il y a eu, je crois qu'il y a eu moins de 200 musulmans qui ont choisi ça, et 398 juifs qui ont choisi ça parce que, en gros, le droit de vote, ils en moquaient complètement.
Oui, ils préféraient garder leur statut.
Ils préféraient garder leur statut musulman et juif. Donc, alors justement, pour la partie juive, c'est là où, et ça va déclencher ensuite, un certain nombre de conséquences. C'est là où, comme après la défaite de 70 et la perte de l'Alsace et de la Lorraine, qui avait une population juive importante, le décret Crémieux du 24 octobre 70 impose aux Juifs d'Algérie la citoyenneté française. C'est-à-dire, on vous donne la citoyenneté française, etc., etc. Et ça nécessite une intervention du consistoire français auprès des consistoires d'Algérie. Il y avait des consistoires qui avaient été créés en Algérie, sous Napoléon III, comme en France d'ailleurs, pour vaincre leurs réticences. Alors les réticences, c'était en particulier sur le plan fiscal et autres. Et ça, c'était un de mes amis qui avait été le président un avocat bien connu et avec qui j'avais beaucoup travaillé, qui m'avait expliqué que le consistoire français était allé dire au consulat d'Algérie, mais il n'y a pas de différence. La seule différence entre les lois françaises et la loi juive, c'est le témoignage des femmes.
Oui.
En France, le témoignage d'une femme vaut celui d'un homme, et dans le système juif, et d'ailleurs musulman, il faut deux témoignages de femmes pour contrebalancer un témoignage d'un homme. Et d'ailleurs, c'est un jour... Moi, si j'avais dit l'autre fois, un jour, à une messe, c'était, je ne sais plus, à l'école militaire, je crois de me souvenir, une messe pendant la Semaine Sainte, dans laquelle l'aumônier nous parle, et à la sortie, je lui dis, mais qu'avez-vous voulu dire? Il me dit, mais regardez, ce que j'ai voulu dire, c'est que la résurrection a bien eu lieu, parce que si on avait voulu faire quelque chose de fou, on n'aurait pas envoyé deux femmes, on aurait envoyé deux hommes, alors que... les Juifs auraient fait ça. Voilà. Bon, je reviens
en arrière.
en arrière là-dessus. Donc, il y avait eu très peu de nouvelles. Mais donc là, il y a un décret qui impose aux Juifs de devenir citoyens français. Ils n'ont pas le choix.
Oui.
Et il y a eu, à ce moment-là, 34 000, environ 34 000 Juifs qui reçurent la citoyenneté française. Mais attention, ce chiffre doit être pris avec précaution parce qu'il y avait plus de 90 000 Juifs en Algérie. Mais les 34 000, c'est uniquement les hommes qui ont
Bien
reçu
sûr,
la citoyenneté
bien sûr,
française.
bien sûr.
Parce que il n'y a pas eu les enfants, mais il faut aussi se souvenir que le droit de vote en France, dans la Troisième République,
N'existait que pour les hommes.
n'existait que pour les hommes,
Les majeurs.
les majeurs, oui, et les femmes n'avaient pas le droit de
Bien,
vote.
bien sûr.
Très large, elles n'ont eu le droit de vote qu'après 1945, et très largement parce que disons, les autorités largement franc-maçonnes considéraient que les femmes étaient trop soumises
Aux
aller à la messe le dimanche
directives des
des
curés.
curés, aller à la messe le dimanche alors que
C'est
les hommes
évident.
restaient au café en face, etc.
D'ailleurs,
Bon.
je crois que c'est Jacques Bainville qui note, enfin, plusieurs historiens d'ailleurs, Bernard Faye aussi, que si la monarchie de la Restauration avait voulu se maintenir, elle aurait, au contraire d'installer un suffrage restreint, elle aurait fait un suffrage universel étendu aux femmes.
Bien sûr.
Et si ça avait été le cas, la monarchie aurait pris une avance considérable et elle aurait eu une assise populaire qu'il fallait qu'elle retrouve d'ailleurs, parce
Tout à
que.
fait. Et donc, je reviens maintenant sur la population juive. La population juive est présente en Algérie, pas forcément la totalité, mais depuis l'Empire romain. Depuis, je crois que c'est les années 40 ou 70, je ne sais plus exactement, mais elles sont arrivées à ce moment-là et ils sont restés en Algérie.
70, oui.
70, ils sont restés en Algérie pendant toute cette période avec des fonctions surtout économiques, financières, etc. Alors, ce décret Crémieux, lui, est très mal accueilli, à la fois par les musulmans et par les Européens. Alors, les musulmans craignent qu'une mesure analogue
Leur
leur soit
soit imposée.
appliquée et donc leur fait perdre leur statut personnel, tant humain, parce qu'ils ont le droit à la. Comme ils vivent sous le système musulman, ils ont la polygamie, l'héritage où les femmes héritent de la moitié de ce qu'hérite un homme.
Ils ont leur juridiction.
Ils ont leurs tribunaux,
Oui,
les qadis,
les caddies,
etc.
oui.
Et
Pour eux,
le.
c'était très important.
Oui, et le rôle de la noblesse musulmane à la tête des tribus et des congrégations religieuses, et aussi l'aspect matériel pour les musulmans d'Algérie, qui était le maintien de la possession de leur bien tel qu'elle est, c'est-à-dire ça peut être l'arbre qui est divisé en six, que six personnes possède, ou les terres qui appartiennent au village, etc., etc. Et surtout, pour les terres, il n'existe aucune preuve de propriété, si ce n'est le bouche à oreille,
Eh
etc.,
oui, bien
etc.
sûr.
Et donc, les musulmans tiennent beaucoup au maintien de cela
Des traditions,
pour pas
bien
que
sûr, bien
les
sûr.
Européens viennent ça. Donc, ils sont pas très chauds pour le décret Crémieux, et les Européens aussi, parce que les Européens se disent, oulala, il va y avoir, les Juifs vont voter, ils sont assez nombreux, et ils sont très disciplinés par leur consistoire, et donc ils vont pouvoir jouer et prendre le pouvoir
Démocratiquement.
démocratiquement dans un certain nombre de villes, etc., etc. Et donc vont se créer en Algérie, à ce moment-là, des mouvements anti-juifs. Alors, à l'époque, on ne peut pas parler de mouvements antisémites
Oui.
parce que c'est un pays arabe.
Oui.
Donc, on ne peut pas parler d'antisémitisme à des Arabes.
Oui.
Les mouvements anti-juifs, par exemple, on va avoir au début du XXe siècle ou à la fin de. C'est 1898. Donc,
Oui.
l'élection comme député d'Alger de Drummond.
Oui.
C'est quand même un des leaders de
Oui.
l'antisémitisme
Français.
française, enfin de l'anti-juiverie française. Voilà, voilà donc le, ce qui se passe en Algérie à ce moment-là, donc un peu de difficultés. Et à ce moment-là, démarre l'insurrection kabyle, en Kabylie. Alors, c'est la plus importante des insurrections que connut l'Algérie française avant celle du 1er novembre 1954.
Bien sûr. Oui.
Mais ça n'est pas un mouvement organisé, mais une série d'agitations et d'insurrections dans l'est de l'Algérie, et son importance a été beaucoup grossie, en particulier au XXe siècle, etc., etc., pour bien montrer que les habitants de l'Algérie s'étaient toujours opposés à la présence française.
Oui, et une insurrection kabyle, ce n'est pas du tout la même chose qu'une insurrection musulmane.
Tout à fait, tout à fait.
De même que ce n'est pas la même chose qu'une insurrection d'Européens. Oui, oui.
Voilà, alors quelles sont les origines de cette insurrection? Ben, d'abord, il faut se rappeler que c'est la zone montagneuse de Kabylie, c'est-à-dire toutes les montagnes de l'Est algérien, sont essentiellement peuplées de berbères, c'est-à-dire des habitants d'Algérie depuis des temps immémoriaux, on ne sait pas, mais enfin, avant Rome.
Oui, la vieille Numidie.
La vieille Numidie. Et ces berbères ont résisté à l'invasion arabe, la Kaïna, je crois que j'en ai parlé dans une... C'était une chef de tribu. Donc, vous voyez, on n'est pas dans un système musulman. C'est une chef de tribu. Et on ne sait pas si elle était, on sait pas si elle était une tribu chrétienne ou juive. Mais enfin, elle s'est opposée aux musulmans. Donc, les berbères s'étaient opposés à l'invasion arabe, puis au contrôle de l'Empire turc, et avaient conservé l'organisation en villages et en tribus autonomes, parce que il n'y avait pas beaucoup de routes de déplacement, on était dans une zone montagneuse.
Et leur langue.
Oui, bien sûr, et leur langue, tout à fait. Et l'armée française n'a pénétré en Kabylie qu'en 50...
C'est important la langue, parce que partout où s'installe le Coran, la langue du Coran s'impose. Ce qui d'ailleurs est une espèce de totalitarisme religieux qui est inquiétant. Quand on se demande comment des peuples qui ont 4000 ans d'existence et qui ont des civilisations et des langues et des alphabets comme en Perse, par exemple, comment ils peuvent accepter de parler la langue d'une tribu bédouine. Parce que dans le fond, c'est ça au départ.
Tout à fait. Les berbères, c'est la France qui a imposé plus ou moins aux berbères l'utilisation de l'arabe.
Exactement. C'est une erreur totale.
Totale. Et je vois, moi,
de la République française en particulier.
J'ai un de mes grands-pères qui était professeur de faculté, mais qui avait été tout jeune, qui était né à Cherchel, etc., qui est une zone berbère, et qui et dont l'oncle, parce que son père était officier, était mort quand il était tout jeune. Il allait surtout le dimanche avec son oncle qui était inspecteur des impôts ou un truc comme ça dans les tribus. Et la plupart des tribus de cette région ne parlaient pas l'arabe.
Oui.
Mon grand-père avait appris l'arabe, mais
ça ne servait à rien.
Ça ne servait à rien dans cette région. Donc, les Français n'ont pénétré la Kabylie que dans les années 53-57, et avec l'armée, et les bureaux arabes se sont efforcés de maintenir partout en Kabylie le système qui existait là, c'est-à-dire villages et tribus.
Oui.
Souvent les tribus étant un ensemble de villages.
Oui.
Alors, le problème, c'est que, toujours dans les origines, c'est que les défaites de 70 face à la Prusse, qui était un pays complètement inconnu de l'Algérie.
Ça a porté atteinte au crédit des militaires, évidemment.
Le prestige de l'armée s'est effondré.
En 1940. Oui,
tout à fait, parce que les indigènes considéraient l'armée française comme invincible, et là, elle était vaincue, et on voyait revenir...
Invincible et respectable, parce que ça, il faut le dire aux gens qui critiquent.
Oui.
Bien sûr qu'il y avait des actes militaires, comme tout acte militaire, qui sont en eux-mêmes pas peu ragoûtants, mais il y avait un respect mutuel à partir du moment où on s'était affrontés et on s'était respectés, oui. Et on avait remis ses armes.
Oui, tout à fait.
C'était un... Il y avait quelque chose de noble et qu'on a complètement détruit, qui a été, qui a disparu. Alors ça n'enlève rien au côté, aux autres côtés éventuellement sordides, mais ça c'était un aspect extrêmement, extrêmement noble et qui comptait énormément dans l'esprit de, notamment des chefs musulmans.
Donc on a déjà ça.
On voit ça très bien avec le père de Foucault, avec les Moussa Agamastan, etc. Les grands chefs berbères ou Touareg qui respectaient, parce que c'était la France, c'était la parole de la France, et c'était un officier français. Ça compte. Bonsoir de bonsoir. Et que, quand on a 2000 ans d'existence en France, comment que fait-il qu'on n'ait plus ce sens de l'honneur qui a été quand même la grande règle de notre armée, en dépit de tout ce qu'on raconte. Moi, je dis ça parce que je me souviens qu'en 62, ça a été affreux. Les militaires qui se déshonorent, c'est pas possible. Alors, il y en a quelques-uns qui ont gardé leur honneur, mais on s'est déshonoré vis-à-vis... Et on le paye aujourd'hui. Et on le paye aujourd'hui. Évidemment, un pays qui se déshonore à ce point-là... Bon, alors vas-y, continue, excuse-moi, mais je donne mon avis au fur et à mesure, parce que donc, je pense que c'est important pour nos auditeurs.
Tout à fait. Donc il y a eu d'abord, donc je dis les origines, il y a eu d'abord le fait que c'est une région très autonome, la Kabylie,
et toujours aujourd'hui d'ailleurs.
Bien sûr, oui. Attendez, pourquoi Glaise est en prison en Algérie?
Oui. Parce qu'il est allé voir les Kabyles.
Parce que... Non, il est allé, pas les Kabyles, il est allé voir...
L'équipe de foot.
L'équipe de foot Kabyle qui avait gagné etc. Et du coup, ça, c'est évidemment un crime contre l'humanité.
Oui, pour Tebboune.
Pour Tebboune,
bien sûr. Et nous suivons la loi de Tebboune. Macron ne connaît que Tebboune. Il ne sait pas qu'il y a des Kabyles, il ne le sait même pas. Oui. Il n'était pas dans ses cours de l'ENA.
Donc, D'autre part, alors ça c'est la première raison, c'est la perte de, disons, de prestige de l'armée.
Oui.
La deuxième, c'est que les années 66 et 68, 1866-68, avaient été économiquement extrêmement dramatiques en Algérie.
Oui.
Parce qu'il y avait eu un concours de circonstances, il y avait eu une sécheresse, il y avait... réduit la germination des céréales, donc beaucoup moins de céréales. Du coup, on ne peut plus nourrir les moutons et le cheptel de moutons avait été divisé par deux. Et en plus, des sauterelles qui arrivent et qui dévastent les champs.
Ah oui, les sauterelles. C'était effroyable. Oui,
mais les sauterelles, les nuages de sauterelles étaient... cacher le soleil. Il y avait tellement de sauterelles qu'on ne se croyait pas tout à fait dans la nuit, mais enfin, un crépuscule. Et en même temps, il y a eu des épidémies de typhus, de choléra, etc. Donc, disons, l'aspect économique et vital était épouvantable. Alors, la situation recommençait à s'améliorer en 69, mais il y avait encore beaucoup de misère dans les campagnes. Donc, enfin, en Kabylie, la victoire du régime civil en 70 en Algérie, c'est-à-dire l'imposition par
le
décret Crémieux du système français, etc.
Centralisé.
Département et plus de pouvoir local. C'était le pouvoir...
républicain dans le mauvais sens du terme. Oui.
Et la réduction concomitante du pouvoir militaire qui était considéré comme un pouvoir protecteur par les indigènes, ça a été considéré comme une lourde menace. Et donc les chefs indigènes sentirent que leur pouvoir personnel sur les tribus, etc., allait être menacé par l'autorité civile. Ils ont craint une forte extension de la colonisation qui réduirait leurs terres, et surtout que la naturalisation des Juifs allait donner du pouvoir à cette minorité qu'il méprisait profondément depuis des siècles, à qui il s'opposait parce que c'était des prêts d'argent, etc., alors que c'est interdit par le Coran, et ainsi de suite. Donc voilà la situation de départ. Alors l'insurrection, c'est pas une insurrection comme celle de 54 organisée, ça a été par-ci, par-là. Ça commence un tout idiot, c'est qu'il y a une smala à Enguetar, qui est à la frontière tunisienne, qui se révolte en janvier 71, parce que l'armée, bêtement, veut envoyer une smala, vous savez, c'était un village, à la fois un village avec l'habitation des familles, des tentes, et, ou un peu de dur, et des militaires. Mais l'accord qui existait, c'est que les militaires de la Smala pouvaient être envoyés, les hommes mariés de militaires de la Smala pouvaient être envoyés, on voulait, en Algérie, mais pas à l'extérieur de l'Algérie. Et là, bêtement, l'ordre
commandement militaire
sans doute, fait une bêtise, à mon avis, il a, par erreur, je pense, mais en disant, allez, la Smala part en France. Et du coup, révolte.
Bien sûr.
Les hommes mariés qui disent mais non, qui obtiennent l'appui d'une tribu à côté. Et d'ailleurs, il faut remarquer qu'au contraire, les célibataires s'opposent à eux en disant non, il faut y aller, on est là pour avec la France. Hein. Vous voyez donc le.
C'était complexe.
Oui, tout à fait. Et donc là, il y a cette révolte avec la tribu des. Donc c'est Anencha qui paye qui pille la campagne autour, etc., etc., et qui attaque Soukaras. Bon, ils ne prennent pas Soukaras, parce qu'on envoie...
Alors Soukaras, c'est où
À la frontière tunisienne.
Oui.
Ça doit être à 200 km à l'intérieur des terres.
Et c'est une région montagneuse.
Ah oui, on est en Kabylie.
Oui.
C'est une région montagneuse. La Kabylie, ça cumule à 2000 mètres, hein, ou 2000, un peu plus de 2000 mètres. Donc c'est vraiment une région montagneuse avec très peu de voies de communication. Alors ça, c'est au début. Et ensuite, en février, il y a la tribu des Ouled Haïdoun qui attaque El Milia, qui est au nord de Constantine. Donc là aussi, puisque c'est la pagaille, ben on va prendre...
Oui.
On va se servir.
Bien sûr.
On va se servir. Au début mars, Mayeddin, qui est le fils d'Abdelkader, qui vit en Algérie, s'empare d'Ouarzla. C'est beaucoup plus au sud, mais c'est une ville, etc.
Mais là, ce n'est pas les Kabyles, là. Si ?
Si. Lui il n'est pas Kabyle. Je ne sais pas. Lui, il est plus ou moins chef de tribu dans cette région.
D'accord.
Parce qu'il y a.
Bon, c'est-à-dire qu'en fait, ça s'étend au-delà même de la Kabylie.
Pas beaucoup. Non, beaucoup. Ça s'étend en Kabylie géographiquement, mais à des tribus qui ne sont pas forcément des tribus berbères.
D'accord.
Et le Bachaga El Mokrani, dont le père avait reçu le titre de califat, c'est-à-dire le calife, pour l'aide qu'il avait apportée à la France à présent. Mais là, El Mokrani essaye de négocier avec le gouverneur général. N'y arrive pas, démissionne de ses fonctions et appelle à la révolte. Et surtout, il obtient d'un vieux cheikh qui s'appelle El Haddad, que El Haddad proclame le djihad et soulève la puissante confrérie des Ramania.
C'est terrible.
Et donc c'est là où on commence l'aspect musulman. Ce n'est pas seulement une révolte civile, mais c'est une révolte religieuse. Il faut savoir, je crois qu'on l'appelait, que dans le Coran et les hadiths, les musulmans ont le devoir de musulmaniser le monde, de convertir tout le monde, et de convertir par la force, si nécessaire. Et d'ailleurs, il y a un mot en Algérie qu'on utilisait dans la langue courante, quand on disait « il faut le faire de obligatoirement », on disait « bessif ». Et « bessif », en arabe, ça veut dire « par le sabre ».
Oui.
Tu signifies bien...
ce que ça veut dire.
Comment on fait ? Et donc, c'est la révolte. Donc, la révolte en Kabylie. Alors, le cœur de cette insurrection, c'est la Grande Kabylie, et dont toutes les agglomérations européennes sont attaquées. On attaque Tizi Ouzou, Dra El Mizan, Borj Meniaïel, Palestro, et ça va jusqu'à la mer, puisqu'il y a une attaque de Sétif et de Bougie, qui sont les deux ports sur la mer, donc ils sont quand même à 200 km, bon, proches de la Kabylie, mais enfin, Et Sétif et Bougie n'étaient pas des zones berbères, c'était des zones turco-arabe.
Mmh.
Alors, la résurrection s'étend à la petite Kabylie et aussi vers l'ouest, vers les abords de la Mitidja et la région de Cherché. Alors, en gros, toutes les régions montagneuses qui vont vers l'ouest, au nord de la Mitidja et Cherché, qui est un peu la mer, qui sont peuplées de Kabyles. Mais il n'y a aucun effet dans les zones arabes de l'ouest. Ça ne bouge pas.
Oui.
Bien que la confrérie des Ramania, mais c'est une confrérie du sud, et donc il y a peu de contact avec la région avec les oui. musulmans de la région centrale.
Alors, seconde,
oui.
Il y a M. Bobineau qui s'invite.
Ah, d'accord.
Et tu vas reprendre, c'est passionnant. Hein, merci. Hein.
Non, mais c'est
de ça comprendre. Fait tout comprendre, et puis ça,
ben
fait,
oui.
ça fait comprendre la suite aussi. Mmh. Les mêmes erreurs produisant les mêmes effets. Mmh. Alors, Bobineau.
Les émissions de Radio Courtoisie arrivent chez vous. Les émissions de Radio Courtoisie viennent à vous, partout. Désormais, dans vos voitures, à vélo, en transport en commun, elles vous accompagnent partout, dans vos téléphones, dans vos poches, 24 heures sur 24. Radio Courtoisie avec vous, politique, société, religion, littérature, histoire, culture, 24 heures sur 24. Nos paroles s'envolent sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr. La liberté, ça n'a pas de prix et c'est gratuit.
La liberté n'a pas de prix, parfaitement. Et donc, j'incite nos auditeurs à écouter ce qu'a dit M. Bobineau, qui est vraiment capital, parce qu'aujourd'hui, pour parler librement, ben, il faut du courage. Alors, à toi la parole.
Alors, on est là-dedans, donc il y a cette insurrection, ou ces insurrections, parce qu'il n'y a pas un grand chef à la tête, hein, c'est vraiment très disséminé. Alors, l'amiral de Guédon, qui est le gouverneur général de l'Algérie, obtient rapidement des renforts. Alors, la chose amusante, pourquoi l'amiral Guédon est gouverneur général? Pourquoi, tout au moins, le gouverneur général de l'Algérie est un marin et pas, alors qu'il n'y a pas de marine en Algérie?
Oui.
Mais tout simplement parce que le gouvernement français se dit, oh là là, avec les luttes contre les bureaux arabes, etc., il faut trouver quelqu'un qui ne soit pas mouillé là-dedans.
C'est
et
ça.
Donc, il nomme l'amiral de Guédon comme gouverneur général de l'Algérie. Bon, il fait bien son boulot. Donc, il obtient très rapidement des renforts et il lance une active répression. Alors, Mokrani, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui avait est tué le 5 mai 71. Donc, vous voyez, ça dure... le 7 mai 70, pardon. Non, 71. 71 est tué près d'Aïn Bessem, et Aïn Bessem, c'est à 80 km au sud-est d'Alger. Hein. C'est plus la Kabylie, c'est quand même un peu plus loin. Fort National, qui était assiégé depuis 2 mois, est débloqué le 24 juin. Et à Ichériden, qui est pas loin de Fort National aussi, les forces kabyles subissent une défaite décisive qui entraîne une série de défections et de redditions, comme par exemple celle du cheikh El Haddad, le 13 juillet. Donc, vous voyez, en quelques mois...
Oui, en quelques mois, oui, 6 mois.
En quelques mois, il y a eu la révolte. Non, mais la révolte commence... Attendez, a commencé... en janvier-février 71.
Ça.
Et
elle s'achève en juillet.
Et, oui, mais c'est pas achevé, parce que la résistance des chefs de tribu se poursuit pendant 6 mois dans la région sud, sous l'impulsion de Boumezrag, qui est le frère de Mokrani. Mokrani a été tué au mois de mai, et le frère a pris la clôture. Et il faudra attendre sa capture le 20 janvier 72, près d'Ouargla, qui met fin à la révolte. Donc en gros, la révolte a duré 1 an. Alors, là, il y a une répression qui fut sévère. Après le...
Oui.
Il n'y a pas eu de reddition, etc. C'était une révolte...
Oui, mais alors la répression, elle a perduré après la reddition des...
Non. C'est, les chefs se rallient et on n'en parle plus.
Oui, c'est ça.
Alors, la répression
était... Il n'y a pas de règlement de compte.
Non, y a... alors voilà, il y a eu, effectivement, il y a eu très peu de condamnations de personnes.
Oui.
Mais les tribus qui s'étaient révoltées durent payer une contribution de guerre, c'est-à-dire une taxe, et que les chefs de tribus ont souvent réparti de manière égale entre tous les individus, c'est-à-dire ça...
Les plus pauvres ont payé pour les plus riches.
Voilà.
Parce que c'est comme ça que ça se passe.
Ça se passe, exactement. Mais cette histoire de contribution de guerre, il faut voir que ça a existé de tout temps.
Oui, c'est ce qu'on appelait le tribut. Oui.
Le tribut, mais la France a fait la même chose. On a payé aux Allemands en 70.
Un tribut. Et nous, on l'a payé, tandis que les Allemands n'ont jamais payé quand c'était eux qui étaient battus.
Ils se sont toujours
arrangés pour ne pas payer, pratiquement.
Mais aussi grâce aux Américains. Hein.
Oui, grâce aux Américains et aux Anglais, qui ne voulaient surtout pas que la France soit victorieuse. Si on ne comprend pas ça, on ne comprend rien à l'histoire de tout ce qui s'est passé au cours du 19e et du 20e siècle.
Voilà.
Mais alors donc ils ont payé.
Alors, ils ont payé. Et là, les terres des tribus ont été frappées de séquestres, c'est-à-dire bloquées, pas toutes d'ailleurs, et certaines terres ont été attribuées aux Alsaciens et Lorrains qui avaient opté pour la France et arrivaient en Algérie. Mais là aussi, je mets un bémol là-dessus, parce que l'Algérie était très largement sous-exploitée. Il y avait des tas de terres où il n'y avait rien, ou à peu près.
Oui.
Et donc, c'était pas du tout, on ne virait pas les gens des terres, on prenait les terres où il n'y avait rien.
Oui.
Alors, en revanche, il y a eu des tribunaux qui ont jugé un grand nombre d'accusés, et avec indulgence de la part des jurés, et il faut savoir que les jurés, ça avait été mis en place quelques années avant, c'était des Européens. Il fallait être citoyen.
Ah oui, c'est ça.
Donc, ils ont été... Parce que beaucoup de ces jurés qui vivaient en Algérie ont estimé que les bureaux arabes étaient très largement, par la politique qu'ils avaient mis en place, responsables de la révolte des Berbères.
D'accord.
Donc, il y a eu... C'est un truc... Alors, il y a eu quelque chose qui est un bon exemple de la violence des Français, c'est que Boumezrag, donc qui était le frère de Mokrani, qui avait mené la révolte pendant 6 mois, a été condamné à mort, mais sa peine a été commuée tout de suite en exil en Nouvelle-Calédonie, et il a été gracié en 78, donc 6 ans plus tard, parce qu'il avait participé à la répression de l'insurrection Kanak en Nouvelle-Calédonie. Donc, ce qui est important là-dedans, c'est de bien voir que on met en place, on dit oui, il faut bien montrer que c'était pas bien, mais c'est pas des massacres.
Non. Du tout.
À la chaîne, on garde une bonne relation avec la population en disant c'était pas bien, on vous punit, mais c'est tout.
Oui.
Ça,
c'était astucieux.
Oui. Alors, si on évalue ce qui s'est passé, c'est que l'insurrection de Kabylie a été importante, mais elle n'a absolument pas mis en péril la présence de la France en Algérie. Elle a duré un an ou un an et demi, mais elle ne s'est pas étendue en dehors de la zone Kabyle, qui était une zone très indépendante, depuis des siècles, face aux Turcs, etc., et qui, où la population berbère était très minoritaire ailleurs en Algérie, et les indigènes sont restés fidèles à la France à peu près partout. Donc, et même souvent, ils ont pris part à la lutte contre les insurgés. Aussi, parce que quand ils voyaient des Berbères arriver dans la Mitidja, ils se disaient « Ouh là 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 là, qu'est-ce qu'ils vont faire ?» Et donc, c'était les bonnes vieilles bagarres entre les Arabes et les Berbères, et les Kabyles. Alors, pour dire ça, la France a repris le contrôle de la Kabylie, et elle n'a engagé à peu près que 25 000 hommes. Oui. Donc, c'est pas 200 000 hommes, etc., c'est 25 000 hommes, etc. Et ensuite, après ça, jusqu'en 1954, il y a eu ensuite 3 révoltes, brèves est localisé à la fin des années 70. Donc on est vraiment à cette époque-là. Dans la région de Biskra en 76, il y a eu deux tribus qui se sont battues.
Et donc, entre elles,
mais qui sont battues contre l'administration française qui voulait maintenir l'ordre. Et puis, après ça, il y a eu, dans les Aurès, en 79, et dans le sud de Rané, les Ouled Sitcheik, en 81, à l'appel d'un marabout qui se disait investi d'une mission divine de...
Ça, c'est toujours dangereux, ce genre de personnage. Oui.
Alors, il y a une rapide intervention militaire qui a permis à chaque fois de ramener le calme. Et pendant à peu près 60 ans, jusqu'à la guerre de 39, les populations indigènes et européennes ont cohabité sans difficulté et elles ont réalisé à elles deux un développement spectaculaire de l'Algérie dans la France, avec leur apogée dans les années 1930 avec le centenaire de l'Algérie.
Eh ben c'est parfait. C'est ça ce qu'il faut montrer.
Exactement.
C'est-à-dire que ça a existé, bien sûr qu'il y a eu des moments difficiles, mais il y a une société qui a existé.
Alors, justement, et à ce moment-là, je vais vous donner un exemple.
Alors, oui.
Kabyle, dans la région Kabyle.
Oui.
C'est l'exemple. On a encore un peu de temps ?
Oui, tu as 25 minutes.
Voilà.
25 minutes.
C'est
raconte ton histoire, parce que tu me l'as, je la connais un peu.
Voilà, c'est l'histoire
va intéresser nos auditeurs.
D'une famille qui s'appelle Ibazizen, qui, entre eux, on connaissait bien une dame qui a quelques années de moins que moi, et qui était de cette famille, et qui... après quelques générations, était en France, elle a fait quelques brillantes études, elle a fait pour apprendre le chinois, et c'est elle qui a créé les premières implantations du crédit agricole français en Chine.
Oui.
Donc vous voyez, voilà la personne. Et elle est venue faire une conférence au cercle algérianiste, donc je reprends un peu le thème de sa conférence.
Et elle est d'origine ?
Sa famille était à l'origine dans un village berbère de Kabylie. Alors honnêtement, j'ai plus le nom du village, mais je pourrais le sentir, mais etc. Et son arrière-grand-père était chef du village dans les années 70. Donc le 1870. Oui, alors je la connais aussi parce que ensuite ils sont venus s'installer à Alger, ils habitaient une maison tout proche de celle de mon grand-père et de mes parents.
Voilà,
deux maisons, ils se connaissaient bien, etc. etc.
Dans quelle rue ?
C'est une petite rue, c'est rue Daguerre, près du bois du Telmli.
Tu y es retourné ?
Comment ?
Tu y es retourné ?
Non.
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 C'est trop dur.
Alors, sa famille donc, vivait dans un village. Et son grand-père était le chef du village. Mais, alors, elle a bien précisé, c'est que ce village, elle nous disait, il vivait très démocratiquement sur le modèle des cités grecques. C'est-à-dire que le gouvernement du village était assuré par la réunion, le conseil des chefs de famille, chef EF, chef de famille, et qui nommait un chef de village, c'était l'un d'eux, qui avait pour mission, non pas de diriger tout, mais d'exécuter les décisions du conseil de village. Et deuxième chose, dans cet endroit-là, la terre appartenait au village et pas aux personnes, pas aux familles. En revanche, les maisons, chaque maison appartenait à une famille. Bon, c'était tout à fait normal. Et les terres...
Il y a des endroits en France où c'était comme ça. Aussi bien pour la structure politique que pour la structure même des terres.
Des terres, oui, tout à fait.
Ce qu'on appelait les biens communaux, enfin les biens banaux.
Oui, tout à fait. Et c'était relativement intelligent là-dedans parce que le conseil des chefs de village allouait les terres aux différentes familles en fonction des capacités oui. et des besoins. C'est-à-dire, celui-là, il est très très bon pour tel ou tel truc, donc tu vas là, et ainsi de suite, voilà. Hein, ou au contraire, lui, il a que deux enfants, c'est pas la peine qu'il ait 5 hectares, 3 suffiront.
Oui, d'accord.
C'était alloué à la personne, ou à la famille, mais pas en permanence, enfin pas pour toujours. C'était alloué à la famille, puis quand le chef de famille mourait ou changeait ou un truc comme ça, ben on réallouait les terres. Mais vous voyez, effectivement, en France, ça a existé, et dans beaucoup d'endroits, ça a été le cas. Alors, en 70, donc, au moment de la révolte, ben, le village se révolte comme tous les autres. Et il est battu. Et à ce moment-là, après la défaite, le chef de village réunit le conseil en disant « Écoutez, voilà, les Français nous ont battus parce que ils sont très organisés et ils sont très bons. Très bons, très...
efficaces.
Très efficaces. Et donc, il faut maintenant qu'on voit ce qu'on fait avec eux. Parce que, après la victoire des Français, eh bien, ils ont eu un comportement très honnête. Bon, ils sont... Certes, ils nous ont fait payer un tribut, etc., etc. Et moi, ils m'ont coupé 3 ou 4 arbres. J'étais fruitier qui était là pour bien me montrer que c'était pas bien ce qu'on avait fait. Mais ils n'ont pas brûlé le village. Ils n'ont pas tué ou jugé, ou etc., les hommes qui étaient là. Ils se sont battus contre eux. Ils ont perdu. Bon, ils sont là. Ils n'ont pas violé les femmes, violé les filles, etc., etc. Donc, ce sont des gens qui sont tout à fait fréquentables. Et maintenant, il faut donc qu'au lieu d'être contre eux, on soit avec eux et qu'on travaille avec eux. Et donc, et à ce moment-là, L'Assemblée l'approuve. Je crois que lui, à ce moment-là, opte pour la citoyenneté française, parce que il y a eu des très très mieux pour les Juifs obligatoires, mais pour le reste, c'était encore le système...
De 1865.
Donc, il opte pour la citoyenneté française. Et il a deux fils, je crois qu'il a des filles, mais aussitôt, il fait apprendre le français à ses deux fils. Et donc, les deux fils apprennent le français et donc n'ont aucun besoin de parler l'arabe, qu'ils ne parlent pas, mais qu'ils parlent le kabyle. Il opte pour la citoyenneté française, mais ça n'a à peu près pas d'effet religieux, parce que normalement, quand on opte pour la citoyenneté française, on doit respecter les lois françaises, donc plus les lois coraniques. En particulier, ben alors on ne peut plus avoir 4 femmes, les lois coraniques. Et là, il n'y en a pas, tout simplement parce que ça, c'est cette région de Kabylie avait été christianisée à l'époque romaine et jusqu'à au 7e siècle, etc. Et s'était convertie à la religion musulmane, mais plus pour des questions d'impôts, de taxes, de liberté.
Politico-économique.
Tout à fait.
Fiscalo.
Oui, tout à fait. Et il n'y avait pas de mosquée dans ce village.
Oui. Oui, c'est ça.
Vous voyez, ni celle de prière. Donc, ils sont convertis. Alors, et puis, il fait apprendre donc, le français à ses enfants, et l'un d'eux devient instituteur. Et c'est là où c'est intéressant, parce qu'un habitant du village âgé qui n'a pas d'enfant dit au village, quand je mourrai, vous prenez ma maison, mais uniquement pour en faire une école. Et donc, commence l'enseignement du français. Et alors, c'est là où il y a une chose, je voulais faire un aparté, sur les systèmes scolaires en Algérie. Parce que, on nous dit, alors moi j'ai eu un de mes amis qui était pharmacien en Algérie, etc., mais dans les villes. qui me dit un jour, mais en métropole, qui me dit un jour, mais je ne comprends pas, la France a... Il y avait beaucoup d'écoles en Algérie, elles ont toutes disparu quand la France a créé des écoles. Alors, c'est vrai et faux. Ça tout dépend du contenu de l'école.
Parce qu'il y avait des écoles coraniques.
Il s'agissait d'écoles coraniques. Bah, alors, école française...
Avec des marabouts.
L'école française est destinée à apprendre aux enfants à lire, à écrire, à compter l'histoire, les sciences naturelles, etc. Mais l'école coranique, elle a pour seul but...
De faire réciter par cœur
le Coran.
Les sourates.
Les sourates du Coran. Et l'école coranique, il n'y a pas une seule fille qui y va.
Oui.
Parce que les femmes, elles sont là pour obéir et pas pour apprendre et savoir. Et donc, il y a eu effectivement beaucoup d'écoles coraniques qui ont disparu en Algérie, dans les villes, etc., etc., dans les années... fin du 19e siècle, début du 20e siècle, tout simplement parce que les enfants qui allaient à l'école, ils ne pouvaient pas aller en même temps à l'école coranique.
Bien sûr.
Et puis, ils apprenaient le français, donc ils n'avaient pas forcément besoin ou trop envie d'apprendre par cœur le Coran.
Et bien sûr. Et d'ailleurs, il aurait fallu étendre cette disposition. C'était...
Non, mais les erreurs... Non, mais alors, on a fait ça, mais aussi, l'autre problème... C'est que la France a voulu faire des écoles en y faisant venir les filles.
Oui.
Et ça, c'était très mal accepté par les parents. Pas forcément pour des raisons religieuses que pour des raisons sociologiques. Mais je ne sais pas si je l'avais dit, mais mon grand-père, donc, qui était à Alger, qui avait été professeur de chirurgie infantile, me disait que un des gros problèmes qu'il avait, et que avait l'hôpital de Mustapha à Alger, c'était le post-opératoire des opérations sur des enfants filles. Donc, une fille avait une jambe cassée, enfin, peu importe, elle arrivait en ambulance à Mustapha, on l'opérait. Elle restait ça, mais le soir, le père était surveillé, et le soir, ben, il l'a ramené parce que si on dans les salles avec les patients la nuit, il y avait des salles femmes ou des salles pour les hommes.
Oui.
Et lui, il voulait surveiller sa fille.
Oui.
Et il pouvait pas lui rentrer dans la salle des filles. Mon grand-père me disait, mais c'était épouvantable parce qu'il les emmenait. Donc il y avait des problèmes post-opératoires
bien
très
sûr,
importants.
Bien sûr,
Et il me disait, mais surtout, c'était idiot parce que la grande majorité des infirmières dans les hôpitaux étaient des sœurs blanches.
Bien sûr.
C'était des religieuses.
Oui.
Donc,
bien sûr.
Une fille. Oui, mais là, c'est la culture. C'est pas la religion, c'est la culture qui fait ça.
Mais on aurait pu faire comprendre davantage, je pense, si.
Ah non, mon grand-père parlait arabe, hein, quand même.
Oui, oui.
Et il m'a dit qu'il n'y arrivait pas. Parce que les autres étaient arrivés en disant, ils avaient peur, mais c'est bientôt ce qui va se passer en France avec les enfants dans les écoles primaires.
Bien sûr. On n'a pas fait l'Algérie française, on fera la France algérienne.
Non, c'est ça
qui va se passer demain. Oui,
mais
bien
avec,
sûr.
Avec tous les viols de filles ou de garçons, etc., etc. Bon. Enfin, voilà. Donc, je reviens donc pour la famille Bazizène. Donc, le père fait étudier ses enfants. L'un d'eux devient instituteur dans le village.
Mmh.
Et alors là, chose doublement intéressante, un beau jour, donc il y a des enfants, il doit y avoir une soixantaine d'enfants. Bah, alors il n'y avait qu'une classe, hein, parce que...
Oui, bien sûr.
Mais...
Oh, comme dans la plupart des villages à l'époque.
À l'époque, même en France.
Même en France, bien
même
sûr.
Même en France, voilà. Et...
Même encore aujourd'hui, d'ailleurs.
Mmh. Donc, il est là, et à ce moment-là, il y a un conflit avec l'inspecteur d'académie, parce que l'inspecteur d'académie a une femme, et voudrait qu'elle soit, elle, l'institutrice de ce village.
Oui.
Et donc, il se débrouille pour faire virer l'instituteur, sous des prétextes fallacieux. Alors là, il y a une anecdote, enfin, la suite qui est intéressante à double titre, c'est que l'instituteur proteste et fait appel. Donc, il va à Alger.
Mmh.
Et là, l'organisme dit qu'il a raison et le rétablit dans sa fonction. Alors c'est d'autant plus intéressant parce que on dit, ah oui, le président de cet organisme était le sénateur d'Alger. Ben oui, il s'appelle Alexandre Mauguin et c'était le grand-père de ma grand-mère.
Ah, d'accord.
Pour ça, cette anecdote, moi,
bien
je l'aime
sûr,
bien.
Bien,
pour
bien
ça,
sûr, bien sûr.
Voilà.
C'est des histoires familiales.
C'est des histoires familiales. Donc,
il n'y a rien de tel pour connaître à fond un pays.
Alors donc,
tout le reste, c'est de la littérature, de journalistes qui n'y connaissent rien. Oui.
Alors, ce fils ensuite, a un fils. Deux enfants, mais il a un fils, mais c'est lui, etc. Qui commence des études, primaire dans le village, secondaire au lycée, et ensuite à la faculté d'Alger. Et ce fils va à la faculté d'Alger. Bon, pardon. Et ce fils fait. Alors, je ne sais pas si c'est le père ou le fils. Le fils, c'est ça. Rentre pendant la guerre de 40, il est mobilisé, il fait les campagnes, etc. Puisqu'il est français.
Oui, bien sûr.
Son père, son grand-père, il a opté pour la.
Oui.
Il est citoyen français, il fait ça, il deviendra officier de la Légion d'honneur. Et il est avocat, et il termine sa carrière d'avocat à Paris, au Conseil d'État. Voilà. Donc,
parce qu'il obtient une place au Conseil d'État.
Au Conseil d'État.
Il est conseiller d'État.
En 58 ou.
Oui. Oui.
Ou 60, enfin c'est...
Donc c'est le petit-fils.
C'est le petit-fils, oui, du chef de village.
Et donc, il n'a pas écrit un livre.
Oui, alors justement, je vais en parler.
Parce que je l'ai lu, ce livre, il y a longtemps, une trentaine d'années.
Oui, c'est ça. Oui, oui, parce qu'il avait l'âge de mon père.
Et ce livre est...
Alors, il a écrit deux livres.
Oui, c'est ça.
Il a écrit
très intéressant.
L'un qui s'appelle « Le testament d'un berbère » de sa vie, et l'autre livre qui s'appelle... Le pont de Berettemouche,
voilà,
le pont
sûr.
De Berettemouche
oui.
Ou le sceau de 1000 ans.
Oui, c'est ça.
Le pont de Berettemouche, là, c'est le pont que le génie français avait construit sur l'Oued, en bas du village, pour pouvoir traverser l'Oued à cet endroit-là, pour aller plus vite vers Alger, vers Bougie, etc., etc. Et le sceau de 1000 ans, c'est ce qu'il dit, eh bien, mon grand-père vivait dans la civilisation gréco-romaine d'avant l'invasion arabe.
Oui.
Et moi, je vis dans la civilisation du XXe siècle. Donc, j'ai fait un
française.
Saut... Française. Oui, dans la civilisation française du XXe siècle. J'ai fait un saut de 1000 ans.
Alors, il s'appelle... rappelle le nom de cette famille.
Alors, lui s'appelle Augustin Ibazizène.
C'est ça.
Comme ça se prononce.
Oui, j'ai lu ses livres avec passion.
Tout à fait.
Tout ce qui concerne l'Algérie et l'Afrique du Nord de manière générale. Me passionne, je suis moi-même né au Maroc.
Tout à fait. Voilà le...
C'est magnifique comme histoire.
Ah, c'est magnifique comme histoire.
Et alors, c'est sa fille que tu connais ?
C'est sa fille que je connais. Et mon grand-père et mon père le connaissaient bien, lui, enfin, etc. Mais ça montre bien...
Est-ce que ça aurait pu être aussi ?
Est-ce que ça a été ? Parce que, attends, parce que
bien
la fille,
sûr,
elle vit en France,
sûr.
Et lui, il vit en France. Enfin, le père vivait en France, à l'âge de mon père, etc.
Oui, maintenant, il est mort, d'ailleurs,
oui,
je pense.
Oui. C'était une intégration complète, mais il y en a énormément. Moi, j'ai eu pas mal d'amis du lycée à Alger qui étaient indigènes, ou berbères,
ou arabes. Oui.
Et,
tout à fait. Moi, j'ai connu des Arabes qui étaient devenus tellement pro-français qu'ils détestaient la France républicaine, la France gaulliste, et ils étaient plus Algérie française que moi. Oui,
mais aussi parce que...
D'ailleurs, il y avait des règlements de compte terribles. Parce que c'était les ennemis principaux du FLN.
Ah, bien sûr. Bien sûr, il y a eu...
Des règlements de compte épouvantables, dont on ne parle jamais, parce qu'évidemment, le sort des malheureux que la France aurait dû protéger n'intéresse personne, comme toujours. On largue les harkis.
Mais
là, c'est la France républicaine.
Mais on peut dire, enfin, j'étais hier à une réunion là-dessus, c'est que que personne ne comprend ou ne dit, c'est que l'attentat du Petit Clamart avait pour objectif de non pas de tuer de Gaulle. C'était le moyen. Mais il avait pour objectif que la France aide et sauve les Harkis ou les Européens qui étaient en Algérie, ce que de Gaulle refusait.
Oui.
Et, mais sans de Gaulle, Monnerville prenait, devenait premier, président de la République, au moins par intérim, et donc aurait pu...
C'est ça.
C'est
l'explication. Tout
c'est l'explication.
Et d'ailleurs, c'est le ratage aussi, parce que oui, du coup, l'objectif n'était pas... Ça, c'est une autre affaire.
Oui. C'est une autre affaire, on pourra en reparler.
Je ne suis pas sûr que les attentats soient une réponse à ce qu'il faut, à des problèmes de genre. Voilà.
Si, là, ça aurait été, parce que ça changeait, changeait celui qui bloquait tout.
Oui, oui.
Voilà, bon, ben, je crois qu'on...
Non, il reste 11 minutes.
Il reste 11 minutes.
Donc, tu as
oui, tout à fait.
On a l'occasion de... Qu'est-ce que l'on fait? On continue un peu?
Alors, tout à fait, on va continuer. Non, mais je crois...
Et c'est intéressant, cette affaire. Tu peux redonner les deux titres de livres? On doit pouvoir se les procurer sur Amazon.
Je pense. L'un s'appelle « Le pont de Bérec-Mouche ».
C'est très touchant, ce livre.
Oui, exactement. Il est
remarquable. Des souvenirs de jeunesse.
Et, et l'autre s'appelle « Le testament d'un berbère ». Le testament d'un berbère. Oui. Et les deux sont de Augustin Ibazizen. Z-I-Z-E-N. Voilà, Ibazizen. Donc, on doit les trouver et je pense qu'il faudra un jour qu'on les fasse rééditer. parce que c'est écrit, c'est la vérité écrite.
Alors, puisque on a fait cette partie historique qu'on souhaitait faire, est-ce que tu pourrais dire quelques mots, tu as 10 minutes, un petit peu moins peut-être, expliquer ce que c'est que le cercle algérianiste, d'abord pour la France entière, quels sont les liens que vous pouvez encore avoir avec l'Algérie? Je pense que ça peut intéresser nos auditeurs.
Voilà. Alors le cercle algérianiste, d'abord, c'est le mouvement algérianiste est né en Algérie dans les années 1920-1930.
Je ne savais pas que c'était si ancien.
Si, c'est né par des... Alors comment s'appelle-t-il? Un académicien français, je trouverai ça, qui métropolitain qui était en Algérie et qui s'est dit mais qu'est-ce qui se passe ici? Mais il se crée une nouvelle province et avec une langue provinciale qui est le mélange d'espagnol, d'italien, de français, d'arabe, etc.
Il y a une très belle page de Maurras dans ses pages africaines qui reprennent des articles qu'il écrivait dans l'Action française parce qu'il a fait deux déplacements en Algérie. Et ça me rappelle...
À cette époque-là.
J'ai lu ses articles avec beaucoup d'intérêt, admirablement écrit, et qui disait la même chose. Alors lui, c'était plutôt sur le plan sociologique.
C'était purement culturel. Oui. Donc ça existait. Et puis, mais ce mouvement... Alors il y avait... Ça, c'était à la fois sur le plan... littéraire, mais également sur le plan artistique, peinture, il y a eu tous les peintres orientalistes.
Oui.
Sur le plan musical, par exemple, Saint-Saëns était venu souvent en Algérie et allait écouter la musique arabe dans la Casbah.
Oui.
Il en tirait un certain nombre de choses. Donc, il y a eu vraiment, c'était disons, pas une civilisation, mais un régionalisme. Il y a le régionalisme breton qui existe depuis longtemps, etc.
Le Foucault avait fait ça avec les Touaregs,
oui.
Il allait écouter lui aussi les poésies récitées par les femmes, principalement sous les tentes, et il en prenait note. Et tout le monde sait qu'à l'heure actuelle, le vrai dictionnaire Touareg français,
c'est celui de Foucault. Donc,
La France a fait un travail absolument merveilleux et le nier, il faut être bête comme Macron pour ne pas comprendre.
Enfin, donc, je reviens là-dessus. Donc, ce mouvement a existé, puis a été mis en veilleuse à partir des années 54. Parce que pendant tous les événements d'Algérie, au contraire, la population européenne était on est français.
Bien sûr.
Et donc, on a pas clashé, mais enfin, on n'a plus mis en lumière, on a continué à parler la langue, enfin, des expressions, etc., etc. Mais que d'ailleurs Macron utilise, on dit
oui,
ma boule.
Oui.
Ma boule.
Oui.
C'est, et alors, ça a été repris ensuite dans les années 70 par justement des.
Alors
1970 par en métropole en se disant
oui.
Ben quand on se réunit
on reprend la tradition des cercles algérianistes
voilà tout à fait du et donc le cercle algérianiste aujourd'hui c'est un ensemble d'associations
oui.
régionales. Il y a une quarantaine de cercles en France.
Ah, c'est merveilleux, oui.
Alors, ça change un peu parce que y en a en Espagne à. Comment ça s'appelle je sais plus. Sur
j'imagine qu'il y en a surtout en Occitanie.
Ah oui, il y en a beaucoup dans le sud de la France, etc. Et puis, dans la région parisienne, il y en a un autour de Tours-Orléans, il y en a un Normandie, enfin, il y en a pas mal, avec des réunions et autres.
Et les réunions sont fréquentées. Fréquentées, oui.
Oui, tout à fait. Mais par exemple, je vais organiser à l'automne, vous savez, je suis en train de faire le calendrier de nos réunions,
oui.
Et on va en faire une. Alors, attendez, la langue, etc.
Oui.
Et par exemple, il y a eu récemment...
La langue quoi ? La langue pied-noir ?
Comment ça s'appelle je commence à perdre la mémoire des noms. Mais il y a eu, par exemple, récemment, une réédition d'une bande dessinée de Tintin. C'était les diamants de ça, et là c'est les émeraudes avec Z, E, etc. de la Castafiore.
D'accord. D'accord. Et alors, c'était en langage.
Alors là, c'est le langage un peu poussé, mais en fait, c'était le langage qu'on pratiquait, mais il y avait des tas de mots. On parlait tout à l'heure de Macron avec.
Son maboule.
Son maboule, et ainsi de suite. Mais on disait pas tu es idiot, on disait tu es maboule.
Oui, oui.
C'est...
Même en France, hein, même.
Ah oui.
Oui, il y avait des expressions qui étaient passées.
Oui. Oh,
non,
oui.
Mais c'est intéressant, ces cercles algérianistes.
Ah oui, tout à fait.
Et alors, il y a des conférences régulièrement.
Alors, chaque cercle organise ses conférences, etc.
Oui.
etc.
Sur et un puis, peu... est-ce qu'il y a un objectif commun de la défense des intérêts des intérêts des pieds noirs, mais également des harkis.
Oui, tout à fait. Et surtout, on intervient publiquement, etc. On a été très largement derrière Boualem Sansal.
Bien sûr, imagine bien.
Oui, tout à fait. Mais ça fait partie du rôle et on veut défendre la mémoire, etc.
Bien sûr.
Et par exemple, on organise là aussi ces cercles algérianistes et puis d'autres associations. On va organiser le 5 juillet comme tous les ans,
oui.
Un dépôt de gerbes au Quai Branly, une messe le matin, un dépôt de gerbes au Quai Branly et un dépôt de gerbes à l'Arc de Triomphe en fin d'après-midi.
Oui, en souvenir des morts de...
D'Oran.
D'Oran. Oui.
Mm-hmm. Mais on fait ça aussi le 26 mars,
puisqu'il y avait été
la fusillade d'Alger.
Bien sûr, bien sûr.
Et...
Alors, est-ce que vous avez des liens avec l'Algérie ? Est-ce
non.
que certains d'entre vous y retournent ?
Très peu.
Très peu.
Très peu.
C'est trop dur.
Exactement. Bon, c'est trop dur, et puis, mais même...
C'est plus du tout dans l'état où c'était. Parce qu'il
non,
y a
mais,
eu quand
même
un
pas.
Abandon.
Même pas. Oui. C'est dangereux. Il y a 2 ans ou 3 ans, je ne sais plus, je ne me souviens plus de son nom, m'avait... qui organisait, lui, des voyages en Algérie à partir dans le sud algérien.
Oui.
Et qui me dit, maintenant, on ne peut plus y aller. Parce qu'il faut être encadré par la police en permanence. Parce qu'ils veulent pas. Et un de mes amis est parti avec un groupe à Alger. Donc, il était dans rue Michelet, qui était la grande rue. Et l'immeuble dans lequel il habitait était la rue d'à côté. mais il n'a pas pu y aller parce qu'ils étaient encadrés et que la police ne voulait pas qu'il sorte du groupe. Donc, alors, et je ne sais pas là-dedans quelle est la menace, etc., etc. Il y a certes la menace des, disons, des extrémistes algériens,
oui.
mais aussi du gouvernement, parce que plusieurs fois, je devais te raconter, j'avais un garçon qui avait été officier dans l'armée française, qui était parti d'Alger, qui m'avait dit en plaisantant que son souvenir de l'Algérie n'était que le goût du lait de sa mère, parce qu'il était parti quand il avait quelques
oui.
jours. Et qui avait été, après avoir été officier, après sa retraite, il avait été envoyé en Algérie, pas en Tunisie, puis en Algérie, par l'ONU. Et qui me disait, mais les habitants d'Alger disent toujours, ah oui, mais ça c'était bien, c'était à l'époque. À l'époque, c'était bien.
Bien sûr, mais bien sûr.
Et il me dit, mais
moi, ça me paraît absolument évident.
Il me dit, par exemple, quand on donne un rendez-vous, ils donnent deux habitants d'Algérie donnent rendez-vous, c'est rue Michelet et pas rue des Douches Mourad.
Bien sûr, bien sûr. Non, non, on a livré l'Algérie à un gang qui la domine et qui l'exploite et qui n'en tire absolument aucun véritable profit pour les populations.
Non.
Alors qu'il y a une richesse et que, justement, la France avait réussi à faire quelque chose.
Ben,
merci, mon vieux Jean. On arrive au bout de notre... et on reprend donc, dis à nos auditeurs, dans un mois, vous aurez une suite et puis on continuera.
Le 12 juillet.
Oui, oui.
Le 14 juillet.
Oui, oui.
Le 14 juillet.
On fera une suite et on arrivera à un moment où on expliquera cette perte de l'Algérie française qui reste, à mon avis, l'un des plus grands crimes contre l'humanité qui ait jamais été commis. Au revoir, chers auditeurs.
C'est pas une perte d'ailleurs, c'est un abandon volontaire.
Absolument.
Vous venez d'entendre le libre journal de la réaction proposé par Hilaire de Crémier, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, mardi 16 juin 2026 de 21h30 à 23h et réalisé par Aline. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.